Well, you got good. You're good. Vous me chien, vous parlez du beau jour? Bonjour, cocotte.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans Ma langue maternelle n'est pas la langue de ma mère, le podcast qui célèbre la diversité linguistique et les histoires langagières.
Ma langue maternelle n'est pas la langue de ma mère. La mia lingua materna non è la lingua de mie mani. Ma mère, elle parle aussi portugais. Après, ma mère, elle n'a pas pu apprendre vraiment le Sena. Sena, c'est la langue que ma grand-mère parlait. Du coup, on partage comme quelque chose qui nous lie, mais il y a quand même autre chose qui, voilà, que nous n'avons pas pu partager. C'est cette langue de sa mère à elle, ma grand-mère à moi, qui reste toujours là. Même si ma mère, par exemple, elle peut comprendre le Sena, elle peut parler quelques mots, quelques phrases, et elle aussi, quand elle entend Sena, elle a les larmes aux yeux.
Je m'appelle Alice Magdelaine. Selon moi, toutes les langues sont dignes d'être transmises, enseignées, apprises, parlées, lues, écrites. Mais choisit-on sa langue, celle que l'on transmet à ses enfants, celle qui résonne, celle qui fait sens? Dans ce podcast, je cherche à saisir le lien intime, à dévoiler le capital affectif que les langues recèlent. Chaque épisode est une rencontre. J'ai découvert Victor de Oliveira sur une scène de théâtre. Il y interprétait un texte autobiographique, Limbo, qui signifie « les limbes ». Profondément touché par l'expression de son vécu de métis relaté dans la pièce, j'ai profité de la sortie du texte aux éditions Chandaigne et Lima pour le rencontrer. Français, anglais, portugais du Portugal et portugais du Mozambique, Sena et Xangane, Victor navigue entre les langues. Celle de ses ancêtres, celle de son enfance, celle de sa vie de comédien et de metteur en scène. Comment l'auteur, né au Mozambique de parents métis, ayant grandi sous un régime colonial raciste, puis une société marquée par la guerre civile, est parti à l'âge de 7 ans au Portugal, compose-t-il sans posture aucune avec ses langues? Et quelle place occupe le portugais aujourd'hui au Mozambique, plus de 50 ans après l'indépendance?
Alors, je suis né à Maputo, au Mozambique, en 71, donc pendant la période coloniale. À ce moment-là, ça s'appelait encore Lourenço Marques. Voilà. Et j'ai passé mon enfance, une partie de mon enfance, donc à Maputo. Donc, on est parti parce que l'indépendance était en 75. Et peu de temps après, a commencé une guerre civile entre le parti au pouvoir, qui était soutenu par les soviétiques, les cubains, donc, parce qu'ils ont instauré tout de suite un régime marxiste-léniniste. Et il y a eu de l'ingérence essentiellement portugaise, sud-africaine et rhodésienne, qui ont formé et armé des milices, qui ont commencé donc une guerre de guérilla contre le pouvoir en place. Et à ce moment-là, voilà, avec mes parents, donc les choses étaient commençaient à être vraiment extrêmement difficiles. Et à ce moment-là, donc, on s'est posé la question de savoir où est-ce qu'on pouvait aller. Comme mon père avait été fonctionnaire de l'État portugais, on a décidé de partir au Portugal et on s'est installé donc au Portugal à ce moment-là.
Quelles étaient les langues de ton enfance et quelles sont tes langues familiales?
La langue de l'enfance, en fait, est le portugais, puisque que ce soit pendant la colonisation, donc le portugais était la langue administrative, officielle, qui était la langue évidemment imposée par le régime colonial portugais. Après, tout le monde parlait d'autres langues. Et toute ma famille vient d'une ville qui est la deuxième ville du pays, qui est Beira. Mes parents, mes grands-mères et tout ça, ils venaient de Beira, qui est à environ 1200-1300 km de Maputo. Et dans cette région-là, on parle une langue qui s'appelle Sena. Et en fait, le Mozambique, il y a à peu près environ une vingtaine de langues. Je dis bien de langues, non pas des dialectes, parce que ce sont des langues qui sont aujourd'hui encore parlé, non pas par quelques centaines de personnes, mais par des millions de personnes. Après, il y a des langues qui sont évidemment moins de poids, et il reste au moins environ 5 langues qui sont les langues les plus parlées. Donc du coup, Sena était la langue que j'entendais parler un petit peu, était la langue que ma grand-mère, mes grand-mères parlaient. Un des derniers souvenirs que j'ai de ma grand-mère, c'est justement de me dire quelque chose en Sena et que je lui réponds dans je ne sais plus quoi. Et elle me dit « Non, 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 ne parle pas, ne dis pas ça, sinon ton père ne va pas être content. » Parce qu'en fait, c'était interdit. C'est-à-dire que c'était les langues dites indigènes qui étaient interdites. Et qui, en fait, ce qui est extrêmement troublant, c'est que ces langues indigènes étaient interdites pendant la période coloniale. Et une fois qu'il y a eu l'indépendance, pour unifier le pays, ils ont décidé que la langue officielle devait continuer à être le portugais pour contrer, comme ils disaient, les tribalismes, etc. Donc pour unifier le pays. Et au tout début, ils ont continué à interdire les langues des peuples parce qu'il fallait absolument imposer le portugais qui était devenu la langue officielle. Donc j'ai, oui, deux langues maternelles, même si Sena, je ne comprends pas. Je connais évidemment quelques mots, je peux dire quelques mots, mais je ne peux pas avoir une conversation. Par contre, c'est des langues où, dès que j'entends parler Sena, bah, je reconnais une sonorité, je reconnais quelque chose qui, j'imagine, va tout de suite vers l'enfance, et que même si je ne comprends pas, ça touche à des choses qui sont bien là, encore. En fait, c'est la langue de mes grands-mères, parce que mes grands-pères, c'était des colons, des blancs, portugais, parce que l'histoire de la colonisation, en tout cas du Mozambique, ça a à voir avec ça, avec une façon que les Portugais avaient de vouloir créer ce qu'ils ont appelé la troisième race, ça veut dire les métis, qui allaient faire, et ça évidemment ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit, donc ce qui allait faire ce que les blancs ne voulaient pas faire, ce que les Noirs ne pouvaient pas faire, puisqu'ils partaient du principe que les Noirs n'avaient aucun droit. Donc du coup, ils envoyaient des hommes blancs, au début beaucoup de prisonniers, de bagnards, pour tout simplement engrosser, on peut dire comme ça, voilà, les femmes noires, donc, et après aller travailler et faire des métis. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, les métis, après l'indépendance, étaient mal vus par tout le monde, puisque pendant la colonisation, bah, ils étaient entre les deux, donc ils avaient plus de droits que les Noirs et moins de droits que les Blancs. Et évidemment, à partir du moment où il y a eu l'indépendance, que les Noirs ont enfin pu avoir accès au pouvoir, il y avait évidemment beaucoup de règlements de compte et de haine envers les métis, puisque c'était ceux qui avaient pactisé, on peut dire en français, voilà, avec le régime colonial. Et pour beaucoup de gens aussi, c'était les femmes qui avaient couché avec les blancs, donc mes grands-mères. Et à Maputo, c'est une autre langue, c'est pas Sena, c'est Shangane. Et Shangane, je parle pareil, donc un tout petit peu, je ne peux pas avoir des vraies conversations, mais un petit peu. Dans un de mes derniers spectacles, par exemple, la plupart des comédiens, qui étaient des comédiens mozambicains, parlaient dans leur langue, donc ils jouaient en Shangane et en Sena. Je faisais un tout petit rôle, et ce qui était marrant, c'est que dans ce petit rôle, qui était le rôle d'un médecin suisse, avec un personnage qui était l'empereur, je parlais en Shangane, avec une autre personnage qui était la femme du médecin, je parlais en français, et avec un autre personnage portugais. Dans une scène, je parlais des trois langues, et en fait, qui sont, d'une certaine façon, mes langues. Après, il y a l'anglais de par le lien avec l'Afrique du Sud, où j'ai passé quand même 2 ans quand j'étais enfant. Et l'anglais aussi lié à l'adolescence, quand je suis arrivé au Portugal, puisque j'étais très enfermé de par tous les problèmes de l'enfance, de la guerre, de l'exil, etc. Donc j'étais très enfermé. Donc je faisais maison, école, école, maison. Et à la maison, bah, il y avait la télé. Et à la télé, il y avait les films. Et les films anglais et américains surtout, non surtitrés, parce que bon, je ne savais pas qu'il y avait le doublage. Il n'y a qu'en France que j'ai appris qu'ici on doublait tout, mais au Portugal on ne double rien. Donc il y avait ce lien au film, le lien aux histoires, à l'imaginaire. Et je pense que c'est aussi grâce à ces années-là d'enfermement avec les cinémas comme compagnon qu'à un moment donné le théâtre est arrivé et que je me suis dit « Ah oui, ok, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire ».
Au Mozambique, quels sont les discours, les préjugés sur la langue portugaise avant et après l'indépendance ?
En fait, avant l'indépendance, il y avait quelque chose où les gens étaient obligés. Donc, ils étaient obligés parce que les Portugais, ils ont vraiment voulu, par des questions géographiques avant tout, puisque c'est un pays minuscule, que tout d'un coup, au XVIe, se voit comme le pays avec le plus grand empire colonial au monde. Donc, à un moment donné, au fur et à mesure du temps, donc, il fallait se poser la question de comment gérer un empire aussi grand. Donc, c'est pour ça qu'ils ont envoyé donc, des gens pour faire en sorte qu'il y ait cette troisième race. Et il y avait les Portugais, il y avait les assimilés et il y avait les indigènes. Et les assimilés, en fait, c'était des Noirs donc, du pays, que ce soit le Mozambique, l'Angola ou les autres pays lusophones, qui faisaient un peu d'école, qui pouvaient aller à l'école primaire et qui, du coup, parlaient le portugais, avaient appris un petit peu quelques bases rudimentaires à l'école primaire. Et comme ça, ils pouvaient accéder à certains postes de pouvoir limités, évidemment, puisqu'ils étaient toujours en dessous des Blancs. Et évidemment, les Métis, comme mes parents, comme mes oncles, mes tantes, et c'était d'emblée, déjà, ils pouvaient, eux, accéder donc à l'école. Donc mes parents, ils sont allés à l'école, enfin que l'école primaire, hein, donc ils ne pouvaient pas aller plus loin que l'école primaire, mais déjà ils ont appris à lire, écrire. Donc du coup le portugais était la langue qu'il fallait apprendre, en tout cas pour les métis, pour une partie des noirs assimilés, comme ils appelaient. Et en même temps, de l'autre côté, il y avait forcément quelque chose où le rapport à la langue maternelle, que ce soit le Shangaan, le Sen, le Mako, enfin, toutes les autres langues, était encore plus fort, puisque ça nous ramenait aux traditions, ça nous ramenait à l'identité propre de chaque peuple, parce que ces langues-là, en fait, elles sont l'identité de chaque peuple. Donc, du coup, c'était une façon de préserver à l'intérieur de chaque famille le lien à la langue. Une fois que l'indépendance s'est faite, donc on aurait pu croire que tout d'un coup ils auraient dit ok, non, on arrête avec le portugais, mais Samora Machel, qui était le premier président du Mozambique, a décidé pour encore une fois unifier le pays et pour, comme il le disait lui-même, lutter contre les tribalismes, avoir une même langue. Donc ça a toujours été, que ce soit avant l'indépendance ou après l'indépendance, quelque chose qui était comme une lutte, comme une résistance au pouvoir dominant. Que ce soit avant l'indépendance avec le régime colonial, que ce soit après l'indépendance avec le régime marxiste-léniniste qui avait été imposé. Et ensuite, je pense qu'au fur et à mesure du temps, pour n'importe quelle personne qui est née au Mozambique ou qui a vécu ou qui vit encore, il y a quelque chose qui est très lié aux ancêtres, aux anciens. Par exemple, le portugais est toujours la langue administrative, c'est toujours la langue officielle, mais tout le monde parle au moins deux, voire trois, quatre langues. Tout le monde. Dans un de ces derniers spectacles que j'ai fait, donc, où il y avait une dizaine de comédiens mozambicains, il y avait deux jeunes comédiennes qui n'ont même pas la trentaine, qui sont nées après l'indépendance. Elles parlent très bien portugais, mais elles parlent aussi le Shangaan et elles ont des enfants qui sont des bébés avec qui elles ne parlent qu'en Shangaan. Donc, il y a cette chose où, à la maison, on parle la langue qui est la nôtre, la langue de notre peuple, la langue des ancêtres. Après, on va à l'école, on va travailler. Dès qu'on sort, on parle portugais. Donc, parce que c'est la langue officielle. Mais les langues, les nôtres, les langues enfouies, les langues des ancêtres, les langues des peuples, elles restent toujours. Et tout le monde peut se comprendre donc, dans ces langues-là.
Est-ce qu'il y a une langue portugaise plus légitime qu'une autre ?
Non, je pense pas. Il n'y a pas de langue plus légitime que d'autres. Enfin, il y a une langue qui est la langue portugaise. Après, elle évolue avec le temps et elle évolue avec son histoire. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années d'ailleurs, Portugal, avec ce qu'on appelle les PALOP, ce sont les pays de langue portugaise, ils se sont tous mis ensemble et ils ont décidé en fait de refaire la langue portugaise. Donc ils ont mis tout un tas de règles de l'écriture de la langue portugaise qui a un petit peu changé. Un mot très simple, ator, donc ça veut dire acteur, c'est un acteur, moi, un acteur, donc ça s'écrivait avant A-C-T-O-R. Donc, on disait ator, donc sans prononcer le C. Maintenant, donc, ils ont enlevé le C, donc du coup, on lit ator. Et ça, c'était signé par tous les pays dont le portugais est la langue officielle. Voilà, ça, c'est des choses qui ont été faites. Après, évidemment, il y a toujours, et je pense qu'il y en aura encore pour longtemps, un discours sur le fait de savoir si le portugais du Portugal, voilà, c'est le portugais auquel il faut absolument se référer et que c'est ça, et ou alors est-ce que, par exemple, au Mozambique, il y a un auteur que pour moi est le plus grand auteur mozambicain, un des plus grands auteurs du continent africain, il s'appelle Miyakoto, et Miyakoto a une langue qui est un portugais à lui. Donc il a vraiment, donc il, c'est pas qu'il invente des mots, mais il a une façon de réécrire la langue, de travailler avec les mots de façon que on comprend tout, tout en voyant bien qu'il s'agit d'un autre type de portugais, disons comme ça. Donc c'est vraiment un portugais particulier puisqu'il arrive à construire des phrases qui un portugais au Portugal ne dirait pas. Sauf que, en fait, il n'y a rien de faux, il n'y a rien de pas bien, puisqu'on comprend absolument le sens. Et pour moi, des auteurs comme ça, donc comme Miyakoto ou d'autres grands auteurs au Brésil, au Cap-Vert ou ailleurs, c'est justement, ce sont des personnes qui enrichissent la langue. Parce que si la langue, elle reste figée et qu'elle n'est qu'une langue d'académie, enfin, comme genre Académie française, comme les Français aiment bien, bah là, pour moi, ça, enfin, c'est assez dommage, puisqu'on reste figé, et la langue, mais elle bouge tout le temps. Et je me dis que si les gens s'en emparent de la langue et la font travailler, la mâchent, la désarticulent, la retournent dans tous les sens, c'est toujours pour l'enrichir, c'est toujours pour aller plus loin, c'est toujours pour faire en sorte qu'elle soit de plus en plus belle. Et au même temps, je pense, en tout cas, quand je parle des anciennes colonies, c'est aussi pour que cette langue-là, qui est une langue que nous avons héritée de la période coloniale, qu'elle soit aussi de plus en plus nôtre, qu'elle soit aussi à nous, qu'on puisse aussi s'en emparer, qu'on puisse aussi la travailler. Et je pense que c'est pour ça que le Portugal et les pays des PALOP, donc les anciennes colonies de langue portugaise, ont décidé de faire ce nouveau traité de la langue, parce qu'il devait y avoir des choses voilà, qu'ils voulaient changer pour faire en sorte que ce soit quelque chose de commun, donc il me semble. Il y a une autre façon d'habiter la langue, parce que notre histoire n'est pas la même. Et même si on a la même langue, de par la façon de bouger, par la façon de parler, par la façon que nous avons de parler les uns les autres et de vivre les uns les autres, puisque c'est très différent, la langue, forcément, elle change. Donc, au Mozambique, il y a une façon d'habiter et de travailler la langue qui est différente. Et je ne parle pas simplement d'accent. L'accent, bah, ça, forcément, il y a un accent. Mon père, ça fait 40 ans qu'il est parti du Mozambique, il a toujours le même accent mozambicain qu'il avait avant. Donc moi, par exemple, je suis parti, j'étais gamin, j'avais 7 ans, c'est-à-dire que j'ai un accent, quand je parle portugais, j'ai un accent portugais, du Portugal. Et quand je vais au Mozambique, au bout de 2 jours, bah, j'ai un accent mozambicain et c'est absolument pas voulu. Il y a quelque chose de l'enfance qui monte et il y a quelque chose tout d'un coup, quelque chose qui est tellement enfoui de l'ordre de l'inconscient, me traverse et ce n'est absolument pas une posture, c'est juste que c'est la langue que j'ai appris à parler. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, je parlais comme ça. Donc après, évidemment, donc je suis parti, j'ai appris à parler d'une autre façon cette langue, mais quand je reviens au pays, je suis l'enfant que j'étais. Donc, forcément, cette langue, elle me traverse autrement. Donc, c'est pas la même musique, c'est pas le même temps. Il y a tout un tas d'expressions, de façons de parler, de dire que c'est le Mozambique. Quand je suis retourné au Mozambique, j'étais déjà adulte et j'étais étonné moi-même. Tout d'un coup, de parler avec quelqu'un et de me rendre compte que je parle avec une musique qui est la musique du Mozambique. Donc ça, c'est assez étonnant. Et en tout cas, à ce moment-là, c'était très émouvant parce que j'avais à nouveau 7 ans. Si, par exemple, je dis en portugais donc, du Mozambique « Ena, ena », tout ce genre de son qui ponctue les phrases quand je suis en train de dire quelque chose. Par exemple, si je dis « Ce matin, je suis allé au supermarché et j'ai vu une dame, oh là là, elle était incroyable. » Et si je dis « Bah, esta manhã fui ver lá no mercado, estava lá uma senhora, pachi, estava mal, nem sei. » Donc, c'est toute une expression et des sons qui ponctuent les phrases. Donc, au Portugal, personne ne parle comme ça. Donc, c'est impossible. Donc, parce que tout le monde, tout d'un coup, il regarde et dit, mais waouh, t'es mozambicain. Et les Angolais, ils ont d'autres expressions. Les Capverdiens, c'est encore autre chose, puisqu'ils ont le créole capverdien. Mais au Mozambique, en tout cas, et pour les Mozambicains, c'est voilà, des expressions, des tons, parce que c'est très, très musical. C'est-à-dire que le portugais, Par exemple, le portugais du Portugal, il est très sec, si je peux parler en termes de sonorité, c'est très fermé. Les portugais n'ouvrent pas énormément les voyelles, donc tout est assez mâché. Tandis que, par exemple, les brésiliens, ils articulent tous les mots. Et le mozambicain, c'est pareil. Donc, parce que c'est un autre rapport à la langue, et c'est à voir aussi avec l'identité d'un peuple qui est donc quelque chose, tout d'un coup les choses sont plus posées, les choses sont plus ouvertes. Et je dis ça sans vouloir faire c'est pas vraiment des clichés ni des généralités, mais il y a quelque chose qui a à voir avec comment le peuple est, comment le pays est. Donc forcément, s'il y a quelque chose qui est plus lent, s'il y a forcément quelque chose qui a un autre rythme, qui a une rythmique, un beat, une pulsation qui est différente, forcément, on se l'empare dans la langue et on essaye de l'amener ailleurs. D'où tous ces sons. Ah, yo, quando vi, epa, nashi, nan, eho, hihi. Donc, je ne dis pas que tout le monde parle comme ça, mais dans des phrases, ce genre de sonorité, de timbre, de coupure, de virgule, voilà, c'est beaucoup plus jazz. Jazz, comme la musique, qui vient quand même des esclaves, donc c'est beaucoup plus jazz. Donc, tandis que le portugais du Portugal, on continue quand même dans la musique classique, même si, évidemment, les nouvelles générations aident à changer la langue, la rythmique de la langue, et donc la langue est en train de changer aussi grâce à ces Portugais qui sont venus d'ailleurs, ou ces Cap-Verdiens, Mozambicains, etc., qui sont venus des anciennes colonies et qui ont amené d'autres choses.
Tu as fait référence à la pièce de théâtre que tu as mise en scène de Mia Kotu, Les Sables de l'Empereur, c'est ça? Les personnages s'expriment dans leur langue, en fait. Cette pièce, elle a été donnée en France et au Portugal. Est-ce que tu peux nous expliquer ces choix et comment ça a été perçu?
En fait, le texte original, évidemment, il est en portugais, puisque Mia Kotu, même si c'est un auteur mozambicain qui vit au Mozambique, il ne parle que le portugais. Il comprend très bien le Xangane, il peut parler, mais il n'écrit pas en Xangane. Donc, cette histoire, il y a deux personnages principaux. C'est une femme noire qui s'appelle Nemi, qui est une jeune femme qui vit dans un village donc, au Mozambique. Et ensuite, il y a un jeune officier portugais qui part aux colonies. Et ça se passe fin du 19e. Et c'est la période où le Portugal essaye d'emprisonner un empereur mozambicain qui s'appelle Ngungunyane, qui est un des derniers empereurs qui résiste contre le pouvoir des Portugais. Et en fait, Mia Kotu met ensemble donc, ces deux personnages de fiction à côté des personnages de l'histoire. Et dans l'histoire, en fait, Ngungunyane, donc l'empereur, il parlait en Xangane seulement, il ne parlait absolument pas portugais, il avait des traducteurs. Et l'histoire, c'est que le personnage de fiction devient la traductrice de l'empereur, puisque son père était un homme assimilé, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc elle était à l'école primaire, dans une mission donc catholique. Du coup, elle a appris à parler un peu portugais, donc elle sert de traductrice à l'empereur. Donc, il fallait, pour moi, puisque l'empereur du Mozambique, qui est un héros au Mozambique, Ngungunyane, au Mozambique, il a des statues partout, c'est vraiment un héros. Donc, je ne peux pas le mettre sur un plateau en train de parler portugais, chose qu'il ne faisait pas. Il fallait rester quand même si, bon, c'est du théâtre, c'est un spectacle, mais il fallait quand même avoir une certaine responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est une grande fresque historique, une épopée où il y a 15 comédiens sur le plateau. Bah, les personnages mozambicains jouent entre eux en Xangane, et quand ils parlent au portugais, bah, ils parlent en Xangane et en portugais pour certains, ceux des personnages qui parlent en portugais. Les portugais entre eux, ils parlent en portugais. Et après, il y a à un moment donné, une scène avec le médecin suisse qui parle avec sa femme en français, en portugais avec les personnages et en Xangane avec l'empereur. Mais il était important que ces langues-là existent. Il était important pour moi que ces langues-là puissent être sur le plateau. Quand on l'a joué au Portugal, donc on a joué au Théâtre National de Porto, au Théâtre National de Lisbonne, et c'était la première fois depuis donc, la fin des colonies que sur le plateau de ces deux grands théâtres nationaux, on jouait dans les langues des anciennes colonies. La première fois, parce que la plupart des spectacles qui viennent du Mozambique ou de l'Angola ou du Cap-Vert, ils sont joués en portugais. Quand on l'a présenté, donc on a joué ici à la MC93 de Bobigny, on l'a joué à l'Opéra de Nantes, on a joué au Théâtre des Célestins, qui est le grand théâtre de Lyon, Et bah, c'était plein et les gens étaient très heureux et très contents puisqu'ils ont découvert un autre monde. Ils ont découvert une autre histoire, ils ont découvert un pays pour certains, ils ont découvert des langues et tout ce que ça parle, tout ce que ça renvoie de comment ces langues-là restent encore et sont encore présentes 50 ans après l'indépendance.
Il y avait un petit côté jubilatoire comme ça d'entendre le Tchangané résonner dans des grandes scènes. Ça devait être super émouvant, j'imagine, pour tous ceux qui ont participé à ce projet.
Absolument, c'était plus que jubilatoire, c'était en fait extrêmement émouvant. On était tous, en fait, moi le premier, c'est-à-dire que je me souviens même en répétition, il y avait des fois où j'étais ému aux larmes, vraiment, parce que de dire les langues, de les porter, savoir avec ce dont on parle depuis quelques années en France, que la déconstruction, la décolonisation de quelque chose qui est toujours là et qui passe aussi par la langue. Donc, à partir du moment où on peut faire du théâtre dans les langues qui ont été mises de côté, qui ont été interdites, parce que quand ma grand-mère me dit non, 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 ne parle pas, ne dis pas à ton père que je te parle dans telle langue, c'est parce qu'elle a peur, parce que c'est interdit, elle n'a pas le droit de parler sa propre langue. Donc, des années après, qu'on puisse faire un spectacle, que les gens soient sur le plateau, qu'ils puissent jouer dans leur langue première, parce que c'est leur langue première, c'est les langues maternelles, les mères de tous les comédiens, comédiennes avec qui j'ai travaillé, ils ont d'abord parler à leurs enfants dans leur langue. Ensuite vient le portugais parce que c'est comme ça. Donc du coup, de pouvoir jouer, de pouvoir être dans des grands plateaux. Quand on est venu ici, dans la grande salle de la MC 93, c'était juste dingue parce qu'ils étaient très impressionnés, évidemment. Donc comment, voilà, des Mozambicains, donc avec toutes les difficultés, avec tout le problème que ce pays a, qui est un des pays encore aujourd'hui les plus pauvres au monde. Encore aujourd'hui. Donc, de venir là et de jouer et d'être fier justement de jouer dans leur langue, de dire, OK, ça c'est notre histoire, ça c'est notre langue, et ça c'est nous, regardez-nous. Donc, tout ça, c'était extrêmement fort. Et pour les comédiens qui jouaient, oui, parce que, en fait, il faut le dire, juste petite parenthèse, donc au Mozambique, donc il y a très très peu de théâtre, très peu de tout ce qui est lié à la culture, c'est extrêmement difficile parce que c'est un pays extrêmement pauvre. Donc, la plupart des comédiens avec qui je travaille, ce sont des comédiens professionnels, mais qui arrivent en fait à vivre de ce qu'ils font grâce à ce qu'on appelle, et peut-être pour une ou deux qui arrivent aussi à faire un peu de cinéma, donc bon, eux, ça va un peu mieux, mais les autres, en fait, ils font ce qu'on appelle du théâtre didactique, du théâtre de formation, qui est financé par les ONG, surtout pour des sujets liés à la santé. Donc, du coup, il crée des spectacles pour travailler sur la prévention du sida, de la malaria ou du paludisme. Donc, il crée des petites formes dans les langues. C'est pour ça que, par exemple, il y a un de mes comédiens, il s'appelle Horacio, il parle 5 langues du Mozambique couramment. Parce que, en fait, comme il fallait aller jouer tel ou tel spectacle dans telle région, et quand on va jouer dans telle région au fin fond du Mozambique, pour que tout le monde puisse vraiment comprendre, donc il faut parler dans les langues du pays. Donc, du coup, il apprenait les langues de telle ou telle région pour pouvoir jouer dans ces langues-là. Donc, du coup, c'est jouer dans ces langues, pour la plupart des comédiens mozambicains, en fait, ça n'a qu'à voir avec ce qu'on appelle du travail de formation, du travail de théâtre didactique, appelons-le comme ça. Ensuite, quand on arrive à créer un spectacle, à pouvoir le jouer au Portugal, pouvoir le jouer en France, et qu'on le joue dans notre langue, ça c'est juste extraordinaire.
Est-ce que tu pourrais nous partager, soit peut-être une expression familiale ou une expression tout court que tu peux dire avec tes amis là-bas?
C'est difficile. Par exemple, mon père, lui, c'est un homme qui a un vocabulaire à lui très propre. Il est capable de dire des choses qui n'appartiennent que lui et on comprend le sens tout en sachant que ce sont des choses qu'on ne dit pas. Par exemple, quand il voit quelque chose qui est vraiment quelque chose de très étonnant, il peut dire des choses genre Epa, isto não é brincadeira. Si je traduis littéralement, ça veut dire Waouh! Ça, c'est pas du jeu. Brincadeira, c'est un jeu. C'est quand on joue. Brincadeira. Sauf que dans sa façon de dire, en fait, ça n'a pas vraiment à voir avec le fait de jouer. C'est juste, en fait, que c'est sérieux. Et pas isso não é brincadeira. Donc, ça veut dire que c'est, waouh, c'est dingue. Sauf que littéralement, par exemple, si je suis portugais, j'entends, pas isso não é brincadeira. Vraiment, j'ai besoin d'un temps parce que, comme c'est une phrase que les gens ne disent pas de cette façon-là, de quel jeu ils parlent, mais dans la façon avec laquelle il est en train de dire, on fait « ok, brincadeira » par allusion. Donc, « brincadeira », ce n'est pas du jeu, donc c'est du sérieux, donc c'est costaud, donc c'est dingue. Ça n'a pas de sens, en fait.
Si on va à Maputo, est-ce que tu peux nous donner quelques mots ?
Qu'on doit apprendre dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel pays, c'est dire « merci », c'est la moindre des choses. Donc, en Shangane, on dit « kanimambo ». Kanimambo. Kanimambo. Donc, à partir du moment où on dit, voilà, donc, on est déjà en lien avec l'autre parce que c'est pareil, c'est comme toujours, c'est l'effort d'aller vers l'autre qui passe par la langue, qui passe par des toutes petites choses comme dire bonjour, comme dire merci dans les langues. Le contact se fait et on est avec l'autre. Cette reconnaissance de l'autre par la langue, c'est très beau. Je m'appelle Victor de Oliveira. Je suis né au Mozambique. De onde és? Tu viens d'où? Et j'essaie d'expliquer. Je suis né au Mozambique, j'ai vécu au Portugal, j'habite Paris. On me présente un luso-mozambicain, un franco-portugais, un franco-mozambicain, afro-européen, métis, mulatte, tantôt plutôt noir, tantôt plutôt blanc. Tout cela est peut-être vrai, mais rien ne correspond exactement à la vérité. Achille Mbembe rappelle qu'être né quelque part, c'est un accident. Ce texte ou cette interview, comme notre vie, est composé d'accidents.
Un grand merci à Victor de Oliveira pour son témoignage. Merci également à Corinne Solneron de la librairie portugaise et brésilienne de Paris pour la mise en relation. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de « Ma langue maternelle n'est pas la langue de ma mère ». Et d'ici là, comme on dit à Maputo, on est ensemble. Estamos juntos !